Pour poursuivre, Michel, ce radiobarque, alors donc M. Ortiz a déclaré donc dans la presse qu'il se disait écœuré. Alors quel est le fond un petit peu de cet écœurement déclaré ?
Il est dégoûté, il n'en peut plus, il craque, à sa manière évidemment, qui, comme je le disais précédemment, des guerres poétiques. Marc Ortiz jouait de deuxième ligne, théâtral, et puis surtout sur un ton agressif, etc. Bref, les Narbonnais seront dans un état financier catastrophique parce que tout simplement, avec cette salle multimodale, dit-il, la ville va être plombée financièrement, donc le nouveau pouvoir ou l'actuel sera obligé d'augmenter les impôts. Bref, il présente l'affaire d'une manière dramatiquement un peu stupide, quoi. Il faut quand même pas exagérer.
Champion du monde du pessimisme,
il en rajoute en plus. Bon, il n'y a pas simplement à Narbonne, mais à l'Aglo, c'est pareil. Regardez, c'est scandaleux. Je n'en peux plus. On avait un projet de crématorium. Toute l'opposition et certains de mes amis bloquent le projet, ou empêchent effectivement qu'il se fasse dans les délais convenables, alors même que la ville de Narbonne a délibéré pour en créer elle aussi notre endroit.
Aujourd'hui, le crématorium, c'est deux pour le prix d'un.
Surtout, alors, ce qui m'a fait rire, ne pas savoir, c'est qu'il ajoute, c'est une entrave au développement économique du territoire, insupportable.
Ça t'a fait bondir.
Maintenant, qui, le grand argentier de Nouveau Narbonne, du groupe d'opposition à Nouveau Narbonne, à la mairie, et puis le grand argentier aussi à l'aglo, Marc Ortiz, qui est en train de modifier radicalement la théorie économique bien connue quant au monde d'entreprise, et qui nous sort qu'un crématorium, c'est l'équivalent d'une start-up qui va mettre le feu à un tissu économique de la Narbonnaise qui manque de dynamisme, et qui est à la recherche de start-up, justement, innovantes pour le régénérer. Alors, je me dis, mais on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte.
Si tu me permets, l'image n'est pas flamboyante.
Ah non, bah, du tout. Ortiz, quand même, aurait dû aussi exprimer son écœurement à propos, puisqu'on est dans l'économie, qui est une compétence de l'agglo, du parc des scélérants, que l'époque a passé à Fraîche, qui a été acheté par la région, à son propriétaire 8 millions, qui a été revendu 2 millions. Donc, perte en ligne, 6 millions pour les contribuables narbonnais.
Et ça, tu l'as bien expliqué
j'ajoute aussi il y avait le projet, la réalisation du musée, Narbovia, 40 millions au départ, par Fraîche, ouverture en 2016, 50 millions à la sortie, et encore, à mon avis, ça encore plus, et puis en 2020, au mieux, là aussi, quand même. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit, je le dis à M. Ortiz, mais aussi à d'autres, encore que M. Ortiz a dit que de toute façon, il n'était plus candidat à rien. Donc, maintenant, c'est du passé, d'une certaine manière. Mais bon, voilà, le message à nos élus, attention, messieurs, faites attention à ce que vous dites, quand même. Il y a des propos qu'il faut sérieusement, réfléchir, quelques minutes de réfléchir avant de les prononcer de manière un peu trop brutale.
Alors, pour rester dans la politique narbonnaise.
Ce matin, je lis dans la presse que M. Sainte-Cluque, le porte-parole du groupe d'opposition à Didier Mouly à Narbonne, et dont il veut effectivement débarrasser la ville pour.
Oui, candidat déclaré.
Voilà, dont il veut débarrasser la ville pour s'installer à sa place et dans son fauteuil de maire, vient de annoncer le jour des vœux, ce qui est quand même est pas très sympa pour le maire Didier Mouly. Qu'il attaquait en justice, qu'il envoyait dans le tribunal. Ils sont avocats tous les deux, en plus.
Oui, sauf que ça n'est pas un scoop, parce qu'il l'avait déjà dit aux deux précédents conseils municipaux de décembre et de novembre.
Peut-être, mais quand même, le jour, il forme les vœux, pour les Narbonnais, puis boum, en même temps, il envoie un scoop, Et alors, tiens-toi bien, ce qui m'a fait, là aussi, beaucoup rire, décidément, ce matin, on rit beaucoup, ici. C'est que, il l'attaquait en diffamation pour dénonciation calomnieuse, en sus, avec constitution de parti civil, on dirait un peu. Pourquoi ? Parce que dans un débat assez vif, il faut bien le reconnaître,
entre Didier
Mouly et son opposant, ils le sont toujours, dans une instance politique de cette nature, Didier Mouly aurait dit, j'étais pas là, mais d'après ce que la rapporte la presse, je la cite, Didier Mouly aurait dit, son opposant, ressorti en fait, une phrase dans le style, mais vous avez pris de la créatine, en fait. Hein, ou...
Prise
à créatine. Alors.
Oui. Bon, en réalité, M. Mouly a dit, moi, je prends pas de créatine.
Voilà, pareil. Non, mais, ce qui veut dire, ce qui suggère, bon, évidemment, qu'il en prend, de la créatine. Que... Voyons voir ce qu'il y a de diffamatoire, de calomniateur, en fait, hein, à dire à une personne, en fait, comme Nicolas Degluc, qu'il pourrait, en fait, hein, prendre la créatine. La créatine, c'est pas un dopant, quoi. C'est pas de la coque, hein. c'est pas de l'héroïne, en fait, hein. On imagine mal, en fait, cette allusion pourrait laisser entendre que monsieur, en fait, cette cluque, hein, à la nuit tombée, en fait, va dans le quartier de Bourg, en fait, acheter sa dose, en fait, de coque, en fait, pour ensuite, bon, venir débattre au conseil municipal. Enfin, non, c'est quand même, la créatine, les médecins la prescrivent aux personnes âgées, comme le Viagra, d'ailleurs,
hein, la créatine.
Laisse-moi terminer, s'il te plaît, Jean-Claude, hein, pour contrer la diminution de la masse musculaire, en fait. Rien de grave. C'est pas, puis bon, de toute façon, dans le milieu politique, ce genre, en fait, ce genre d'allusion, de métaphore, franchement, quand on entend aujourd'hui ce qui se dit, fait, dans les disputes politiques, à la limite, ce genre d'expression pourrait être considéré comme une gentille, en fait.
Oui,
gentillette, en fait, oui. Remarque, fait, presque sympathique. Tout ça pourquoi, en fait, hein, comment expliquer cet échauffement de Nicolas Sainte-Cluque, ce raidissement, si je puis dire, en fait, de sa conscience.
On est en campagne électorale.
Psychologiquement, ça pourrait aussi interpréter, en fait, amener certains esprits, bon, des interprétations un peu curieuses, quoi. Sauf que moi, je fais l'hypothèse que tout simplement, il s'agissait d'un effet de manche, là, si je puis dire,
un
coup, quoi.
Oui, voilà. Enfin, c'est un coup politique, si l'on veut. Enfin, on verra de toute façon. De la créatine, c'est-à-dire de la médecine, on passe à la justice, et on verra ce que la justice en dira. Pour terminer, Michel, les Français champions du monde du pessimisme, alors, au-delà des grandes images et des belles empoignades municipales, on sombre et on reste dans le pessimisme.
Oui, il y a une...
Enfin, on a l'air de cultiver ça, finalement.
Il y a un article dans l'Indépendant tout à fait intéressant, plutôt un entretien avec un psychologue qui s'appelle Sklisler, et qui est interrogé justement sur cette espèce de climat, en fait, dans lequel on vit, en fait, et particulièrement en France, et qui fait voir... le monde, notamment par les Français, de manière très 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 pessimiste. Très pessimiste parce que, bon, voilà, 3% d'entre nous, je parle des Français, considèrent que le monde va très mal, en fait, qu'on est en train de régresser.
Bon,
3%.
Ouais, c'est pas trop, c'est pas beaucoup quand même.
3% qui considèrent que... Non, mais pardon. 3% de Français qui... Non, putain, c'est l'inverse. Ah. C'est la différence.
Ils considèrent que ça va bien.
Non, mais 3% considèrent seulement que le monde va bien.
Oui, voilà, d'accord.
Excusez-moi,
oui.
En fait, va bien.
Alors là, mais non,
3%.
Ça fait 97%.
C'est un sondage d'un grand sondeur, en fait, américain, qui le fait valoir et qui nous place, de fait, en haut du podium. Oui, on est les champions du monde du pessimisme.
Voilà. Et le plus drôle, c'est que certains pays où vraiment ça va mal s'en tirent mieux.
Ça c'est certain. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand on regarde objectivement les choses, quand même, tous les indicateurs démontrent que ce soit en termes de mortalité infantile, que ce soit en termes de diminution de la pauvreté, que ce soit en termes de diminution de l'illettrisme, enfin bref, tous les paramètres qu'il faut
objectivement
analyser une situation, une évolution, tout démontre justement... Le contraire.
Ben oui.
Le contraire. Alors, quelles sont les explications qui peuvent être avancées pour expliquer ce genre d'attitude, en fait, de ressenti? Ce psychologue, en fait, en montre deux. En fait. La première, c'est, il a une petite responsabilité d'ailleurs, le comportement de la presse. La presse qui, c'est bien connu.
Oui, qui met de l'huile sur le feu.
Préfère voir, effectivement, traiter, en termes d'information, un tsunami qui, dans le moment en cours, là, bon, produit, fait des ravages, fait un nombre de morts incalculables, et toute une série de catastrophes style, fait la plus grosse, d'ailleurs, entre parenthèses, la plus petite. C'est rien, un accident de la route, fait bon,
etc. L'art de cultiver la morosité.
Ça, c'est la première.
La deuxième,
c'est le fait que les médias ont une attitude par rapport au réel qui relève de la dystopie. C'est-à-dire, la dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. C'est-à-dire, oui, c'est une fiction qui considère que tout va mal, quoi.
On catastrophe en bas. Ce qu'on appelle en bon français, noircir le tableau.
C'est ça, exactement. C'est l'inverse de l'utopie, quoi. Donc, et de sorte que les journalistes, dans ce contexte intellectuel-là, bon, eux, ont tendance à considérer que tout article positif sur un événement, une situation ou une tendance
n'est pas bon,
et relève la propagande.
Est à rejeter
parce que c'est de la propagande.
Oui, il est suspect.
Il va favoriser un genre suspect. Donc, deux phénomènes qui, effectivement, je considère.
Entretiennent et cultivent l'amorosité.
Qui me semble tout à fait bon, juste, hein, il suffit tout simplement de s'arrêter deux moments et de regarder un petit peu comment la presse relate les événements, notamment dans notre pays aujourd'hui. Alors, ce psychologue en question ne dit pas que tous les journaux, qu'on devrait supprimer, les médias, qu'on devrait annuler les réunions, etc.
Il dit simplement,
évidemment, que, ils ont une responsabilité certaine à cet état de fait et que la moindre des choses qu'on pourrait leur demander, c'est de traiter de l'information réelle.
Objectivement. Voilà.
Eh bien, de donner des chiffres, des tendances, des statistiques précises. Bref, qu'ils fassent leur...
Bref,
Jean-Claude, qu'ils fassent leur métier.
Voilà, bref. Et on fait bref et on marque une deuxième pause avant de retrouver notre invitée, Corinne Renard.